Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakiza à la présentation de cette édition du mercredi 5 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. En RDC, entrée en vigueur demain de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au Mali, un journaliste français affirme avoir été enlevé par un groupe djihadiste. Au Tchad, polémique sur le soutien de l'opposant Saleh Kevzabo à la junte militaire au pouvoir en N'Djamena.
Je désapprouve le choix fait par mon parti UND d'entrer dans le gouvernement. Je soutiens l'opération Wakitama.
Le conseil de surveillance de Facebook maintient l'interdiction de Donald Trump de poster des messages sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Londres va abriter en juin prochain le sommet du G7. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a remplacé les autorités civiles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par des militaires. Une mesure prise dans le cadre de l'état de siège qui entre en vigueur demain jeudi. Le point avec Eddy Issango.
Les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, seront dirigées par une administration militaire secondée par la police pendant l'état du siège. Le président Tshisekedi a nommé à la tête du Nord Kivu le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, ancien commandant de la première zone de défense incluant Kinshasa. Ancien rebelle du RCD, le nouveau gouverneur du Nord Kivu a aussi dirigé la région militaire de l'Équateur. Il sera secondé par les commissaires divisionnaires Benjamin Alunga. La province de l'Ituri sera dirigée par le lieutenant-général Constant Dimankomba, issu lui d'un autre ancien mouvement rebelle, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Il était chef d'état-major adjoint et a dirigé la zone de défense de Tchopo. Le commissaire divisionnaire Ekoukali Popo sera son vice-gouverneur. Les gouvernements et les assemblées provinciaux sont suspendus et leurs prérogatives transférées aux autorités militaires, mais continuent à jouir de leurs avantages sociaux. L'état des siège doit durer 30 jours, mais pourra être prolongé plusieurs fois de 15 jours par l'Assemblée nationale.
Au Burkina Faso, au moins 25 personnes, dont deux supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont été tués et 11 terroristes neutralisés lundi dans l'attaque d'un village de l'est du pays, selon un bilan provisoire officiel publié mercredi. Le gouvernement tient à saluer la bravoure de ces volontaires qui ont su opposer une résistance héroïque à l'ennemi permettant de neutraliser 11 terroristes, indique le communiqué. Cette attaque est une des plus meurtrières depuis le début des opérations djihadistes au Burkina il y a 6 ans. Un journaliste français, Olivier Dubois, collaborateur de divers médias, affirme dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux avoir été enlevé début avril au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Le point avec Bagassi Koura.
Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal confirme à Paris l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois. Dans une brève vidéo, Olivier Dubois explique avoir été enlevé le 8 avril à Gao par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance djihadiste dirigée par le chef Touareg malien Yaga Gali. Assis en tailleur sur une toile de couleur verte, il dit s'adresser à sa famille, à ses amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire libérer. Le journaliste, vêtu d'un costume traditionnel, la barbe bien taillée, s'exprime face caméra. Le mouvement de ses doigts semble traduire une certaine nervosité. Au Mali, depuis 2016, Olivier Dubois était en reportage à Gao, a tweeté le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Ce journaliste âgé de 46 ans travaille habituellement pour le Point Afrique et Libération. Il s'était rendu de sa propre initiative dans le nord-est du Mali après avoir préparé, grâce à ses contacts, un entretien avec un dirigeant d'un groupe djihadiste.
Médecins sans frontières s'inquiète de la malnutrition alarmante observée dans certaines zones de la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. MSF souligne que les habitants peinent à accéder aux sites de distribution alimentaire et déplore que l'aide se limite aux principales localités, n'atteignant pratiquement jamais les zones rurales. Cette situation devrait se dégrader avec l'arrivée prochaine de la saison des pluies, ajoute l'ONG. Des centaines de Zoulous ont défilé mercredi dans Johannesburg pour rendre hommage à leur reine et régente, morte la semaine dernière, un mois après son époux. La dépouille de la reine doit être transportée vers le palais royal à Nongoma, quelques 500 km au sud-est de Johannesburg. Plus de 2000 travailleurs étrangers en France qui ont été en première ligne durant l'épidémie de coronavirus et ont montré leur attachement à la nation ont été naturalisés français, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur. Depuis septembre, plus de 8000 demandes ont été déposées en préfecture sur l'ensemble du territoire, selon le communiqué qui précise que les dossiers sont actuellement en cours d'examen et seront tous étudiés avec la plus grande attention. L'instruction envoyée au préfet leur permet notamment d'utiliser la notion de service rendu important pour réduire à 2 ans, au lieu de 5 ans, la durée minimale de résidence en France exigée. Le Haut Tribunal espagnol de l'Audience nationale a démenti avoir convoqué le chef du Front Polisario, hospitalisé en Espagne et qui fait l'objet d'une plainte pour torture, contrairement à ce qu'avait indiqué lundi une source judiciaire impliquée dans cette affaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le conseil de surveillance de Facebook a décidé de maintenir l'interdiction faite à l'ancien président américain Donald Trump de poster des messages sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Mahamadou Oumfa nous en dit plus.
Le conseil de surveillance de Facebook, dont les décisions sont contraignantes, a jugé que l'ancien locataire de la Maison-Blanche avait créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible avec ses commentaires le 6 janvier, jour de l'assaut du Capitole. Mais s'il maintient la suspension de l'ex-président américain, le conseil juge qu'il n'est pas approprié pour Facebook d'imposer une sanction d'une durée indéfinie. Il demande donc à Facebook de réexaminer la décision arbitraire imposée le 7 janvier dans les 6 prochains mois. L'ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a immédiatement condamné cette décision, estimant que cela aurait un effet dissuasif sur la liberté d'expression. Donald Trump a lui-même réagi par un communiqué réitérant ses accusations de fraude électorale lors de la dernière présidentielle américaine. Son conseiller Jason Miller avait promis que M. Trump lancerait sa propre plateforme, mais pour l'instant, il s'agit d'un blog ajouté sur son site internet avec les mêmes messages que sur le réseau Gab, un réseau ouvertement conservateur.
Le président américain Joe Biden doit annoncer prochainement sa stratégie à l'égard de la Chine et les appels se multiplient pour qu'il s'engage publiquement et clairement à défendre militairement Taïwan en cas d'agression chinoise. Joe Biden devrait rendre explicite que les États-Unis répliqueront à tout usage par la Chine de la force contre Taïwan, a-t-il jugé dans une tribune publiée en septembre par le magazine Foreign Relations. Les dirigeants des pays du G7 tiendront leur sommet en personne en juin en Angleterre pour la première fois en plus d'un an. Les ministres des Finances du groupe se réuniront les 4 et 5 juin à Londres, a annoncé le Trésor britannique. Les précisions de Nathalie Barche.
Les ministres des Finances des pays du G7 seront rejoints par des dirigeants de la Commission européenne, de l'Eurogroupe, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l'OCDE. Parmi les priorités du sommet, notamment le climat, la reprise économique post-pandémie, la protection des emplois et l'aide aux pays les plus vulnérables face à la crise sanitaire. Avant la rencontre, le chancelier de l'échiquier, ancien secrétaire au Trésor britannique, Rishi Sunak, tiendra une réunion virtuelle des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales le 28 mai. La présence de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen pourrait être l'occasion d'évoquer le projet d'un taux minimum d'imposition des multinationales. Les dirigeants des pays du G7 tiendront leur sommet annuel en juin dans les Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Celui de l'an dernier, prévu aux États-Unis, avait été annulé à cause de la pandémie.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine pour apporter son soutien face à Moscou après des semaines de tensions, mais aussi pour exiger des efforts dans la lutte anticorruption. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons John Lindon pour la Minute Éco.
Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, a rencontré mardi une délégation du patronat et de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat pour échanger et les rassurer sur le climat des affaires. Il leur a indiqué que tout pessimisme est à écarter et que le pays va poursuivre sa marche irréversible vers l'émergence. Galiano Gold, qui opère déjà au Ghana, vient d'annoncer l'acquisition de la totalité des parts d'ABG Mali, filiale de Barrick Gold, pour un montant de 1,5 million de dollars. Cette acquisition intervient après le lancement de ses premiers travaux d'exploration au projet Azumura au Ghana. ABG Mali détient 4 permis d'exploration et sa nouvelle concession est située dans le sud-ouest du Mali, près de la frontière sénégalaise. On reste dans les mines où l'opérateur Perseus Mining Limited annonce avoir réalisé un investissement de 385 millions de dollars en 2020 pour ses mines d'or de Sissingué et Yaouré en Côte d'Ivoire et celle de Dinkang au Ghana. Selon son bilan d'activité, pour les 3 premiers mois de l'année 2021, Perseus Mining a produit un peu plus de 88 000 onces d'or en hausse de 29%, ce qui porte le total pour les exercices financiers en cours à 225 000 onces.
Nous passons directement à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le comité de normalisation du football ivoirien vise à choisir un président de la Fédération nationale sur le modèle de la CAF. C'est ce qu'a annoncé hier à Abidjan le président de la FIFA, Gianni Infantino.
On n'a pas de temps à perdre avec des divisions. Il faut unir, il faut bâtir, il faut construire, il faut refaire briller le football ivoirien, pas seulement grâce au talent de certains joueurs, mais grâce à toute sa structure et ce qu'elle représente pour l'Afrique et pour le monde.
La Fédération ivoirienne de football a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA, qui a installé un comité de normalisation pour tenter de régler une crise concernant l'élection du président de la FIFA. Le 14 janvier, la sénatrice Mariam Dao Gabala a été choisie par la FIFA pour présider ce comité de normalisation. Le comité a pris ses fonctions le 21 janvier et est chargé de gérer le football ivoirien jusqu'au 31 décembre 2021. Monsieur Infantino avait à ses côtés le nouveau président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, qui a rappelé la nécessité de mobiliser des fonds pour le football africain.
Le football a besoin d'argent. Le football en Afrique a besoin d'argent pour investir dans la jeunesse, pour investir dans les infrastructures, pour rendre les clubs compétitifs. Les prix doivent être plus élevés, payer plus d'argent aux joueurs. Les propriétaires des clubs doivent également réussir. Nous allons donc chercher à lancer de nouvelles compétitions et à trouver de nouvelles voies pour obtenir de l'argent pour le football.
Patrice Motsepe, président de la CAF en Europe. L'international algérien Riyad Mahrez envoie Manchester City à sa toute première finale de Ligue des Champions prévue le 29 mai à Istanbul. Déjà auteur d'un but à l'aller, Mahrez a inscrit 2 buts en demi-finale retour hier face au Paris Saint-Germain battu 2-0. Les Sky Blues connaîtront leurs adversaires de la finale ce soir à l'issue de la deuxième demi-finale retour entre Chelsea et le Real. Le match aller à Madrid s'est soldé par un score d'un but partout. Ici, en NBA, les Bucks iront au play-off, n'est-ce pas, Bagasikura?
Oui, les Milwaukee Bucks se sont assurés de participer au play-off en l'emportant 124 à 118 contre les Brooklyn Nets dans le bloc des poids lourds de la conférence Est. Dans les autres rencontres, les Phoenix Suns remportent leur 5e match d'affilée face aux Cleveland Cavaliers, battu 134 à 118 après prolongation. Les Clippers se sont imposés 105 à 100 face aux Raptors du Camerounais Pascal Siakam, auteur de 24 points et 7 rebonds. À la Nouvelle-Orléans, les Pelicans ont gagné 108 à 103 devant Golden State
Sacramento s'impose 103-99 face à Oklahoma City.
Bagassi Koura, merci.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, la décision de Salé Kevzabo, opposant historique au régime de Idriss Déby Itno, de reconnaître les autorités de transition et de faire participer deux de ses camarades de parti au gouvernement de transition suscite des réactions au sein du quartier général de son parti UNDR. L'opposant Mahamat Ahmad Alabo, nommé ministre de la Justice, lui assure qu'il va redresser l'appareil judiciaire pour lui donner ses lettres de noblesse. André Kodmajingar, notre correspondant de VOA Afrique en N'Djamena, fait le point.
Travailler pour la justice est ma devise. Lutter contre l'injustice est mon sacerdoce. Respecter le droit de l'homme est mon devoir.
L'opposant Ahmad Mahamat Alabo, nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits de l'homme, poste qu'il a occupé sous le régime du président de fin il y a 20 ans avant de passer à l'opposition. Il prend l'engagement de ne pas s'immixer dans le travail des juges.
Je ne donnerai aucune instruction en faveur d'un tel justiciable au détriment d'un autre. En retour, je serai intraitable avec les magistrat Ripou. Je voudrais demander aux populations, aux groupes d'influence, aux faiseurs de décisions, de s'abstenir, de venir à la chancellerie solliciter un quelconque faveur judiciaire.
Ahmad Mahamat Alabo s'engage également à faire respecter le droit de manifester à tout citoyen qui, selon lui, est un droit constitutionnel. Car, dit-il, le titre 2 de la Constitution de 1996 qui consacre la liberté des droits fondamentaux et des devoirs et celles qui ont subi des modifications n'a pratiquement pas changé.
Comment comprendre que des Tchadiens et des Tchadiennes, marchant en chantant l'hymne national, soient gazés, interpellés, condamnés et quelquefois, et hélas, tués à coups de balles réelles? Comment comprendre que les enceintes sacrées des écoles soient allègrement violées pour y balancer des gaz lacrymogènes contre des élèves? Comment comprendre que des journalistes soient traqués et obligés de rentrer en clandestinité pour avoir tout simplement fait leur travail en publiant un article ou en faisant une expression contraire?
Pour mettre doute à Tolngar, président de la coordination des actions pour la gouvernance démocratique, la justice et l'égalité sociale, le ministre de la Justice, qui n'est pas noviste du département, a touché un vrai problème qui freine la distribution de la justice en tant que l'équilibre social et de la paix au Tchad.
Dans la journée d'aujourd'hui même, nous l'avons saisi par une correspondance pour dire que nous sommes disposés à mettre à sa disposition toutes les preuves possibles du labyrinthe judiciaire. Et nous lui tirons aussi chapeau pour ce qui est du droit de manifester. Le droit des journalistes devrait faire leur travail.
La justice renaîtra de nouveau.
En revanche, les membres du bureau exécutif de l'UNDR de l'opposant Salé Kevzabo murmure au sujet de sa décision de reconnaître les autorités de transition et entrer dans le gouvernement. Le professeur Avaksuma Djona est membre du bureau exécutif de l'UNDR.
Plusieurs jeunes ont donc été froidement assassinés et que d'autres sont encore sur les lits d'hôpital. C'est dans ce climat de douleur que l'UNDR décide d'accompagner le Premier ministre, de reconnaître le CMT et de faire son entrée au gouvernement, qui n'est qu'un consensus paralysant. Les camarades ne doivent pas abandonner les autres jeunes seuls face aux fusils d'assaut des assassins. Je désapprouve le choix fait par mon parti, l'UNDR, d'entrer dans le gouvernement. Je soutiens l'opération Wakitama.
Le bureau exécutif de la dite formation politique s'est réuni d'urgence ce mercredi et aurait demandé des excuses publiques du professeur Avaksuma Djonan pour sa sortie médiatique. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Depuis plusieurs semaines, les coupures intempestives d'électricité font partie du quotidien des Ivoiriens. Le pays est à nouveau confronté à d'énormes difficultés dans l'approvisionnement et la fourniture d'électricité sur toute l'étendue du territoire. Cela pourrait durer des mois selon le gouvernement. Cette situation exaspère les populations dans un pays qui exporte de l'électricité vers ses voisins. D'Abidjan, la correspondance de Siri Kibaro.
La Côte d'Ivoire est de nouveau face au délestage. Les interruptions dans la fourniture d'électricité touchent tout le pays. Une situation que les Ivoiriens ont de plus en plus de mal à supporter. Jessica Koussa est étudiante en Master 2. Elle craint de ne pouvoir étudier convenablement.
Tu es en train de bosser sur ton ordinateur, le courant se coupe. Comment est-ce que tu vas continuer à bosser? On doit commencer nos mini-mémoires, ça fatigue. On n'arrive pas à dormir convenablement parce que il y a les moustiques et tout ça, c'est en train de maladies.
La Côte d'Ivoire exporte l'électricité dans la sous-région et les Ivoiriens ont du mal à concevoir que la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, ne soit pas en mesure d'assurer la fourniture d'électricité au plan national. Raïm Siloué, responsable marketing d'une chaîne de radio, peine à comprendre la situation.
Un pays comme la Côte d'Ivoire en 2021 ne doit normalement pas connaître ce genre de situation. On en pâtit tous, hein. C'est vraiment terrible, on est obligé de subir.
Un avis partagé par Fatoumata Sangaré, une Ivoirienne qui commercialise de la boisson qu'elle conserve dans un réfrigérateur.
Le courant qui est ici, ça ne nous suffit pas. Et en plus, aller vendre ça encore au pays d'à côté pour encore nous faire souffrir davantage.
Pour sa défense, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, le ministre Amadou Koulibaly, évoque des aléas climatiques et des problèmes techniques pour justifier ces coupures.
Nous avons connu une forte saison sèche qui a fait que le niveau d'eau de nos barrages a diminué et nous avons donc perdu en puissance en termes de fourniture d'électricité hydroélectrique. Chez un des fournisseurs des centrales thermiques, nous avons eu une grosse panne sur un appareil qui a fortement perturbé le secteur.
Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a laissé entendre que ces interruptions pourraient durer jusqu'au mois d'août prochain en attendant la construction d'une nouvelle centrale qui permettra d'apporter de la production supplémentaire d'électricité. Siriki Barreau, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Et à présent, direction Grand Bassam, l'ex-capitale coloniale de Côte d'Ivoire. Si la cité voisine d'Abidjan est aujourd'hui connue pour ses plages, c'est avant tout une ville qui regorge de trésors architecturaux. Ce patrimoine négligé ces dernières années est aujourd'hui en péril. Mais face à cela, une partie des habitants de la ville ont décidé de s'organiser pour sauver cet héritage inestimable de l'histoire ivoirienne. C'est un reportage de Yacine Chio.
Nichée au bord de l'océan Atlantique, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam, avec son passé colonial, est un véritable musée à ciel ouvert. C'est ici que les colons français installèrent leur capitale en 1893. Certains bâtiments laissent imaginer la richesse de la ville au début du XXe siècle. Peter Tayoro, guide à Grand Bassam depuis plus de 20 ans, en connaît l'histoire sur le bout des doigts.
Ce joli bâtiment, c'est la maison Blackson, qui a marqué l'histoire commerciale à l'époque coloniale de la Côte d'Ivoire. Et là où on est, c'était un peu la place Boussière. C'est là que tout se discutait.
Sauf qu'ici, le temps semble s'être arrêté. La végétation recouvre la plupart des bâtiments, dont certains, pourtant classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, menacent aujourd'hui de s'effondrer.
Si on perd tous ces bâtiments qui, aujourd'hui, font qu'on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire et que demain, on les a plus, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a plus d'histoire. Et un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple qui est mort. Voilà, donc la réhabilitation, franchement, s'impose.
Face à ce danger, certains riverains ont décidé de rénover eux-mêmes les bâtiments. C'est le cas de Luc Grago, un architecte tombé amoureux de la ville de Grand Bassam, qu'il surnomme d'ailleurs la Saint-Tropez ivoirienne.
On a dû d'abord casser tout ce qui tombait, du plafond et tout ça, pour refaire aussi calite et ciment tous les plafonds. Bon, l'arche existait. Derrière, j'ai créé une chambre d'hôte qui sera, quand on recevra des artistes aussi, ce sera pour accueillir l'artiste qui exposera quand il viendra de l'extérieur. Dans 2 mois, j'ai tout fait là. Je connaissais déjà le bâtiment vu que j'avais déjà restauré à côté.
Et au rez-de-chaussée du bâtiment, Luc a donné carte blanche à son associé Herman pour ouvrir un restaurant qui, aujourd'hui, fait le bonheur des Bassamois.
Je suis arrivé à Bastam en 2008. Voilà, donc j'ai eu l'amour pour cette ville et tout. Donc c'est là que j'ai exercé mes premiers talents de cuisinier et tout. Voilà, donc j'ai adoré. Et puis j'aimais bien aussi l'histoire de Bastam. C'est comme ça que j'ai découvert cet endroit-là. Et puis bon, j'ai apprécié tout de suite, qui était un ancien un entrepôt. Donc maintenant, on a décidé de rénover et puis d'essayer de donner quelque chose de plus sympa.
Luc et Herman espèrent que leur histoire fera des émules et que d'autres comme eux donneront une seconde vie au patrimoine inestimable de Grand Bassam. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.
Abdourahman Dia avec vous. Au menu de Washington Forum cette semaine, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Avec plus de 120 groupes armés actifs, dont les ADF, la zone est plongée dans une instabilité chronique qui a poussé le président Tshisekedi à annoncer l'état de siège. Une annonce qui a suscité espoir et interrogation alors que les manifestations se multiplient ces derniers temps contre ce que la société civile appelle l'inaction de la MONUSCO face aux exactions des groupes armés contre les civils. Comment résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC? Réponse avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le taux de natalité aux États-Unis a chuté de 4% l'année dernière, la plus forte baisse en une seule année depuis près de 50 ans. Le taux a chuté pour les mères de toutes les races et ethnies et dans presque tous les groupes d'âge, tombant au plus bas depuis que les responsables fédéraux de la santé ont commencé à le suivre il y a plus d'un siècle. Le rapport est basé sur un examen de plus de 99% des certificats de naissance l'année dernière aux États-Unis. John Lyndon a joint John May, professeur à l'université George Mason et spécialiste des questions démographiques.
Mais je crois que les choses ont démarré, je parle de la baisse de fécondité aux États-Unis, au moment de la grande récession de 2008. À ce moment-là, la fécondité a commencé à baisser, et a commencé à baisser dans tous les groupes ethniques, y compris chez les Latinos, les Hispaniques, qui auparavant avaient une fécondité sensiblement plus élevée que les autres groupes ethniques aux États-Unis. Donc la fécondité des Hispaniques s'est alignée sur les autres fécondités des autres groupes ethniques aux États-Unis et l'ensemble de la fécondité a commencé à baisser. Avant la grande récession, les États-Unis étaient environ à 2,1 enfants par femme et puis c'est devenu 2 enfants par femme, qui est à peu près le niveau de remplacement. Mais maintenant, nous sommes rendus un indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme de 1,6 enfants seulement.
Alors, parmi les raisons qui favorisent cette baisse de la fécondité chez les jeunes filles notamment, l'étude souligne que la plupart d'entre elles préfèrent repousser l'âge de leur premier accouchement. Mais l'étude note aussi que la baisse de la fécondité, vous le soulignez tout à l'heure, concerne toutes les races. Un mot là-dessus ?
Oui, ce qui se passe, enfin il y a plusieurs phénomènes qui se passent en même temps. Donc la récession de 2008, donc qui a vraiment causé des soucis économiques aux ménages, le fait que les jeunes filles souhaitent démarrer leur vie reproductive un peu plus tard qu'auparavant, et même de plus en plus tard, notamment à cause des études qui sont plus longues. Mais il y a aussi le fait que la pandémie de la COVID-19 a incité toute une série de couples à reporter une naissance qu'ils envisageaient. Donc il y a ce phénomène-là qui doit également jouer. Et donc c'est pour ça qu'on observe actuellement un indice synthétique de fécondité de 1,6 enfants par femme aux États-Unis, qui est assez faible. Et en ce sens, les États-Unis s'alignent petit à petit avec les autres pays de l'OCDE, notamment l'Europe, notamment les pays d'Asie de l'Est, la Corée du Sud, mais la Corée du Sud a un niveau de fécondité encore beaucoup plus bas, à 0,9 enfants par femme. Et donc les États-Unis sont en train de s'aligner en ce qui concerne la fécondité sur les autres pays industrialisés de la planète. En revanche, en ce qui concerne la mortalité, là on observe que les États-Unis s'écartent justement des autres pays industrialisés parce qu'il y a une remontée de la mortalité adultes aux États-Unis, notamment à cause de la crise des opioïdes.
John May, professeur à l'université George Mason et spécialiste des questions démographiques. c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnon, Joselle Morissin, Lionel Lunamela Kalima et Michel Claire-Joseph. Eric Omandakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.